Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue, la Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Sedoulia pour ce premier bulletin d'information de la soirée. Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontrera demain à Paris son homologue russe Sergueï Lavrov. Ils vont essayer de trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine qui pourrait arrêter la concentration de forces russes autour de ce pays. Les officiels américains ont confirmé la nouvelle, mais n'ont fourni aucun détail spécifique à ce sujet. C'est une longue conversation téléphonique entre le président Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine qui a permis ce nouveau round de pourparlers. Il s'agit là d'un nouvel effort pour désamorcer la crise qui, en quelques semaines, est devenu le problème le plus sérieux entre la Russie et les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Washington et ses alliés ont insisté sur la nécessité d'une solution diplomatique aux différends sur l'Ukraine, y compris l'annexion controversée de la Crimée par la Russie. Ces derniers jours, il y a eu une augmentation considérable de la concentration de forces russes près des frontières ukrainiennes. Mais Sergueï Lavrov a dit aujourd'hui à la télévision d'État russe que son pays n'a aucune intention d'envoyer ces forces-là en Ukraine. Le président Barack Obama est en route pour Washington après une tournée diplomatique d'une semaine en Europe et au Moyen-Orient où il a rencontré hier près de Riyad le roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Les deux leaders ont discuté essentiellement des tensions créées par la guerre civile en Syrie et le programme nucléaire iranien. Avant de quitter Riyad, le président Obama a remis à Maha al-Mounif le prix international Femme de courage du département d'État américain pour sa lutte contre la violence contre les femmes et les enfants. En Égypte, un tribunal a condamné à mort deux partisans du président déchu Mohamed Morsi en rapport avec la violence consécutive à son renversement par l'armée en 2013. Les deux prévenus étaient jugés pour avoir jeté d'un toit à Alexandrie deux personnes lors de manifestations réclamant le retour de M. Morsi. Les autorités intérimaires sévissent depuis 9 mois contre les partisans des frères musulmans et de l'ancien président, toujours en détention. Récemment, un tribunal de Minya a également condamné à mort 529 membres des frères musulmans pour le meurtre d'un policier, une attaque contre un poste de police et autres actes de violence. D'autre part, toujours à Minya, quelques 700 membres de la confrérie sont jugés pour différents chefs d'accusation, dont meurtre et incitation à la violence. Les autorités égyptiennes qualifient les frères musulmans de terroristes et ont arrêté beaucoup de leurs leaders. En Afghanistan, des militants talibans ont lancé aujourd'hui une attaque contre le QG de la Commission électorale indépendante à Kaboul, la dernière en date en prélude à la présidentielle de la semaine prochaine qu'ils se sont jurés de perturber. Selon les responsables afghans, les assaillants ont usé d'explosifs à partir d'une maison proche peu avant le début d'une conférence de presse. Les officiels électoraux ont dû se réfugier dans des salles spécialement sécurisées du bâtiment bien protégé qui ressemble à une forteresse. Et un porte-parole de la police a dit à la Voix de l'Amérique que 5 assaillants ont été tués lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité et 2 policiers ont été blessés. Les assaillants étaient revêtus de burqa, la tenue traditionnelle des femmes afghanes, qui les couvre de la tête aux pieds. Profitant de l'amélioration des conditions météo, les avions et bateaux ont continué aujourd'hui leurs recherches dans l'océan Indien, espérant retrouver des débris du vol 310 de Malaysian Airlines. Plus de 100 secousses secondaires ont été signalées dans le sud de la Californie à la suite d'un tremblement de terre dans la région de Los Angeles.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, fièvre Ebola, les experts déconseillent la consommation de viande de brousse, notamment celle des agoutis et des chauves-souris.
La fièvre d'Ebola, même si elle est connue depuis 40 ans, c'est quand même une affection qui est assez rare, heureusement, et qui arrive souvent dans des régions très reculées.
On entendra le docteur Pierre Rollin des CDC aux États-Unis. Près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément en 2012 du fait de l'exposition à la pollution de l'air, affirme l'Organisation mondiale de la santé.
Évidemment, il y a toujours un impact, les maladies respiratoires chroniques, l'asthme, les cancers du poumon et même la pneumonie chez les enfants. Mais maintenant, on a beaucoup d'évidence qui lie la pollution de l'air aussi aux maladies cardiovasculaires.
Le docteur Maria Neira de l'OMS nous en dira davantage et introduction du vaccin anti-rotavirus dans le programme de vaccination du Cameroun et ce grâce au soutien de la Gavi Alliance. L'épidémie de fièvre Ebola en Guinée a gagné la capitale, Conakry. Une centaine de cas suspects de fièvre hémorragique virale ont été détectés depuis le début de l'épidémie en janvier. Dans le sud de la Guinée, région considérée comme le foyer de l'épidémie. Par ailleurs, des cas suspects de fièvre hémorragique virale ont été signalés au Libéria et en Sierra Leone, selon l'Organisation mondiale de la santé. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a appelé la communauté internationale à l'aide. Le virus Ebola étant logé chez certains animaux, les autorités sanitaires ont prié les populations de s'abstenir de la consommation de viande de brousse, notamment l'agouti, la chauve-souris et les singes. Du fait de la rareté de la maladie, il n'existe aucun vaccin ni remède contre le virus Ebola, explique le docteur Pierre Rollin, expert des fièvres hémorragiques au CDC, les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies ici aux États-Unis.
La fièvre d'Ebola, même si elle est connue depuis 40 ans, c'est quand même une affection qui est assez rare, heureusement, et qui arrive souvent dans des régions très reculées. Et il est vraiment difficile d'étudier vraiment cette maladie. Il y a des recherches qui sont en cours, il y a des vaccins, des traitements qui semblent marcher maintenant dans des expérimentations animales, mais on n'a pas encore passé le pas et pour pouvoir l'essayer, voir si ça marche chez l'homme.
Oui, vous parlez de sa rareté, mais n'est-ce pas urgent de mettre au point un vaccin quand on sait que ce virus est mortel dans 25 à 90% des cas, docteur Rollin ?
Oui, il est urgent de trouver un vaccin, mais la question aussi se pose, quelle population vaccinée ? Si on prend l'exemple maintenant de la Guinée, il n'y a jamais eu d'Ebola en Guinée. La population de Guinée, n'aurait, même s'il y avait un vaccin à l'heure actuelle, n'aurait pas été vaccinée parce qu'elle était en dehors de la zone d'endémie, si on peut dire.
On écoutait le docteur Pierre Rollin, expert des fièvres hémorragiques au CDC, les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies. Que peut faire la population pour se protéger ? Le docteur Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations de l'ONG Médecins sans frontières, a évoqué des recommandations.
Donc les mesures qui sont en cours, c'est des mesures d'isolement des patients, étant donné que c'est une maladie hautement contagieuse, et c'est le suivi des cas suspects. C'est-à-dire que toute personne présentant des fièvres sont suivies, surtout dans les patients, on va dire, contacts de patients déjà malades, et les patients qui développent maladie devraient être isolés.
Avez-vous des conseils pour les populations ?
Les conseils principaux des populations, c'est tout signe avec fièvre, saignement, c'est de se mettre en contact avec les autorités sanitaires et de faire très attention aux cas suspects pour ne pas se contaminer soi-même.
Le docteur Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations de Médecins sans frontières. «
Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé, un programme hebdomadaire de La Voix de l'Amérique. Près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément en 2012 du fait de l'exposition à la pollution de l'air, selon de nouvelles estimations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces chiffres représentent plus du double des estimations précédentes et confirment que la pollution de l'air est désormais le principal risque environnemental pour la santé dans le monde, souligne l'OMS dans un communiqué de presse. Les nouvelles données soulignent le lien plus fort entre la pollution de l'air à l'intérieur des habitations et de l'air extérieur et les maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux ou encore les cardiopathies ischémiques, ainsi que le cancer. On écoute les précisions du docteur directeur de la santé publique et de l'environnement à l'OMS.
Les chiffres nous donnent plus de 7 millions de morts prématurées en 2012 qui peuvent être directement liées à l'exposition à la contamination de l'air. Et ça, c'est vraiment un chiffre dramatique dont on doit tous maintenant commencer à prendre des actions très décisives pour réduire de plus en plus.
Ces décès sont provoqués par quel type de maladie?
Alors en fait, on savait depuis très longtemps qu'on étudie l'impact de la contamination de l'air sur la santé, qu'on cherchait surtout les maladies respiratoires. Et évidemment, il y a toujours un impact les maladies respiratoires sur les maladies respiratoires chroniques, l'asthme, les cancers du poumon et même la pneumonie chez les enfants. Mais maintenant, on a beaucoup d'évidence qui lie la pollution de l'air aussi aux maladies cardiovasculaires. Donc on peut dire qu'il y a aussi un impact sur l'infarctus, les morts pour infarctus et les problèmes cérébro-vasculaires. Et ça, c'est devenu même les maladies les plus importantes liées à la pollution de l'air. Donc en fait, on est très inquiets. Et mais le côté positif, c'est que si on prend des mesures, on pourrait réduire de façon très considérable tous ces morts par maladies chroniques non transmissibles, ainsi que les maladies transmissibles.
Quand on parle de la pollution de l'air, on songe surtout à la contamination dans les rues. Mais en fait, il y a beaucoup de contamination à l'intérieur même des habitations.
En fait, notre rapport parle de deux types de contamination. Celle qui se produit à l'intérieur, donc la contamination à l'intérieur est responsable des 4,5 millions morts par an. Et c'est dû au fait qu'il y a presque la moitié de la population mondiale qui encore, pour cuisiner à l'intérieur de la maison, ils doivent utiliser des matériels fossiles pour faire ce feu. Donc, les bois ou charbon, même des résidus sèches. Et là, évidemment, ça provoque une combustion incomplète et qui génère des particules qu'après on respire, on inhale et ça passe dans notre poumon et dans notre circulation sanguine et représente tout cet impact sur la santé qu'on décrivait avant. De l'autre côté, il y a la pollution à l'extérieur, la contamination dans les villes, même dans les zones urbaines où on vit. Et là, c'est provoqué par les questions des trafics, les voitures, les transports et même des villes où il y a une production industrielle très importante à l'intérieur de la ville, de la zone urbaine encore, sans la législation qui devrait être en place pour éviter ces émissions contaminantes. Et puis aussi du fait qu'on utilise énormément dans le monde le charbon pour générer l'énergie. Et c'est très contaminant.
Quelles sont les mesures ou les stratégies préconisées par l'Organisation mondiale de la santé pour tenter de remédier à l'impact de cette pollution de l'air?
Pour la pollution intérieure, ces populations qui cuisinent encore comme dans la préhistoire, on préconise évidemment que ces gens puissent avoir un accès à une énergie moderne, propre. On n'a pas besoin de déforester pour collecter du bois et faire du feu, mais qu'on puisse avoir accès à du gaz ou bien de l'électricité ou des énergies même solaires ou renouvelables plus propres. De l'autre côté, pour la pollution à l'extérieur, on préconise des pratiques qui ont prouvé déjà qui sont très efficaces, des interventions qui réduisent énormément la pollution de l'air, comme l'accès à un transport public durable, accessible à la population, qui descend son TIF, l'utilisation des voitures privées qui contaminent. Évidemment, regarder quels sont les carburants qu'utilisent ces voitures et mettre des filtres ou réduire les plus polluantes. Sortir de la ville les productions industrielles ou bien avoir des filtres de technologie pour éviter ces contaminations. Passer à l'utilisation des carburantes plus propres et réduire l'utilisation du carbone et passer à des énergies plus propres. Et puis, évidemment, l'incinération des déchets. Chaque ville doit faire un diagnostic de quelles sont ses sources de contamination et puis avoir un impact sur ceux qui sont les plus contaminants. Tout le monde peut aider, mais ce sont en général des politiques d'État où plusieurs secteurs doivent contribuer.
Le docteur Maria Neira, directeur de la santé publique et de l'environnement à l'Organisation mondiale de la santé, elle était jointe à Genève. Camille Grosdidier pour cette édition de Carrefour Science et Santé. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Introduction du vaccin anti-rotavirus dans le programme de vaccination du Cameroun grâce au soutien de la Gavi Alliance, ce qui va permettre aux enfants camerounais de bénéficier d'une protection contre la diarrhée à rotavirus, principale cause de diarrhée sévère, souvent fatale. En effet, explique Frédéric Tissandier de la Gavi Alliance, le rotavirus tue chaque année près de 6 000 enfants camerounais de moins de 5 ans. L'Organisation mondiale de la santé a recommandé que les vaccins anti-rotavirus soient introduits dans le cadre de stratégies intégrées de prévention et de lutte contre la diarrhée, ajoute Madame Tissandier. On l'écoute.
Le Cameroun et les enfants du Cameroun vont pouvoir bénéficier du vaccin contre le rotavirus, qui est la principale cause de diarrhée sévère et mortelle. Et ce vaccin va les protéger en fait contre ce qu'on appelle communément la gastro, ce qui va permettre de sauver des milliers de vies d'enfants au Cameroun.
Alors ce vaccin est d'autant plus important que la diarrhée est l'une des causes de mortalité les plus fréquentes chez les nourrissons.
Tout à fait, c'est l'une des principales causes de mortalité chez les nourrissons. Et il faut savoir que au Cameroun, plus de 5800 enfants meurent chaque année à cause du rotavirus qui provoque donc cette diarrhée sévère. Et c'est inadmissible de nos jours qu'on ait les moyens de protéger ces enfants et qu'on ne les utilise pas. Donc le Cameroun fait un pas en avant vers la protection de ces enfants en introduisant donc le vaccin dans le programme de vaccination systématique, dans le programme qu'on appelle de routine, et ce vaccin va protéger donc les enfants et éviter qu'ils ne meurent de diarrhée sévère.
Alors, mis à part la vaccination, il y a d'autres méthodes de prévention de la diarrhée. Quelles sont-elles ?
La diarrhée, on peut la prévenir déjà avec de l'eau potable, avec du lavage de mains, avec l'utilisation de zinc en cas d'épisode diarrhéique. On peut la prévenir aussi par l'allaitement maternel. Il y a un certain nombre d'interventions qui sont utiles, mais c'est vrai que le vaccin est important dans des pays où l'accès à l'eau ou alors l'accès aux latrines n'est des fois pas facile et peut s'avérer compliqué, ou encore quand il y a des structures de santé qui ne sont pas accessibles rapidement. Et dans ces cas-là, les enfants peuvent mourir. Donc c'est vrai qu'il est préconisé dans les pays en développement, dans les pays où il y a des structures sanitaires qui sont faibles, d'introduire le vaccin contre le rotavirus parce que ce vaccin offre une protection très importante. Je crois qu'il faut vraiment souligner que c'est un grand pas en avant qui est fait par le Cameroun aujourd'hui. Encore une fois, c'est inadmissible que de nos jours, on ait les moyens de prévenir des décès d'enfants inutiles. Et l'introduction de ce vaccin va permettre de protéger ces enfants et de sauver des vies.
Madame Frédérique Tissandier de la Gavi Alliance, elle était jointe à Genève. Gavi est un partenariat public-privé qui a pour mission de sauver la vie des enfants et de protéger la santé des populations en élargissant l'accès à la vaccination dans les pays en développement. L'Alliance réunit entre autres les gouvernements, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie pharmaceutique et la fondation Bill et Melinda Gates. Washington, la Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier qui vous présente Carrefour Science et Santé. L'énergie nucléaire connaît un regain d'intérêt en Afrique, notamment du fait que plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Mais cet intérêt suscite également des craintes. Michel Joseph.
L'Afrique du Sud accueillait cette semaine le Congrès de l'industrie du nucléaire en Afrique 2014 qui visait à développer l'énergie nucléaire à travers le continent. L'Afrique du Sud envisage la construction de plusieurs nouvelles centrales nucléaires. Au total, 21 pays du continent s'intéressent à cette énergie présentée comme propre et efficace. Mais elle ne fait pas l'unanimité, loin de là. Dominic Gilbert, membre fondateur de la coalition contre l'énergie nucléaire en Afrique du Sud, Coalition Against Nuclear Energy South Africa, s'inquiète de l'enthousiasme de Pretoria pour le nucléaire, alors que le public ignore ses défauts. Malheureusement, le grand public n'a guère reçu d'informations sur les dangers du nucléaire et certainement pas ses coûts. Il ne s'agit pas seulement de la santé. Nous pensons que cela mettra le pays en faillite, car c'est totalement et absolument hors de prix, explique Dominic Gilbert. L'Afrique du Sud s'est déjà dotée des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Kerberg, dont les déchets sont traités à l'usine de Valpoots. Mais elle n'a pratiquement rien fait pour étudier l'impact de ces installations sur les populations avoisinantes, ajoute Mme Gilbert. Pour d'autres scientifiques, les méfaits du nucléaire sont moins préoccupants que ceux du charbon, que privilégie aujourd'hui l'Afrique du Sud.
Of all the energy sources that there are, nuclear has shown itself to be the safest.
Pour le physicien Kelvin Kam de Nuclear Africa, il est clair que de toutes les sources d'énergie, le nucléaire s'est avéré le plus sûr. Le public ne le comprend pas à cause des campagnes de désinformation, souligne-t-il.
Suivez Carrefour Science et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. On se tourne vers l'espace pour signaler deux découvertes inattendues cette semaine. Morgan Guerriec.
Des astronomes ont tout d'abord détecté deux anneaux autour d'un petit corps du système solaire du nom de Chariclos. Ce lointain astéroïde tourne entre Saturne et Uranus à 2 milliards et 500 millions de kilomètres de la Terre et ne mesure que 250 kilomètres de diamètre. Jusqu'à présent, seules les planètes géantes telles que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune étaient connues pour posséder des anneaux. Mais à la faveur d'une occultation stellaire, une équipe scientifique incluant 11 chercheurs français du LESIA, l'Observatoire de Paris CNRS, a découvert ce mini-système d'anneaux autour de Chariclos. La découverte est parue en ligne dans la revue Nature. C'est également dans Nature qu'une autre équipe internationale d'astronomes a annoncé avoir observé une nouvelle planète naine orbitant très loin du Soleil et bien au-delà de Pluton. Surnommée Biden, en référence amicale au vice-président des États-Unis, elle mesure 450 km de diamètre, donc elle est 5 fois plus petite que Pluton et se trouve 3 fois plus loin de chez nous, installée sur une orbite elliptique très étirée.
Ici Washington, vous suivez Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Grosdidier. En Côte d'Ivoire, les handicapés physiques pourront se procurer des chaussures thérapeutiques, des semelles et appareils orthopédiques sur place, grâce au premier centre spécialisé dans ce domaine qui a récemment ouvert ses portes à Abidjan. Les sentiments des handicapés et des autorités, ainsi que les diverses activités du centre orthopédique et services, sont évoqués dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
Fini les nombreux voyages des personnes handicapées en direction de l'Afrique du Nord, soit pour un traitement, soit pour acquérir un appareil orthopédique. Un centre spécialisé pour cette catégorie de personnes a vu le jour ce week-end dans la capitale économique, gratifiant ainsi un soulagement à celle-ci.
Madame Kwaku, vu notre situation, je pense que c'est une bonne opportunité pour nous, les personnes handicapées, de savoir que nous avons un centre. Non seulement l'accessibilité est très bonne pour nous autres, on n'a pas besoin de se déplacer d'Abidjan, on peut avoir le tout, non seulement les médecins, et puis en même temps les appareils, les chaussures adaptées. On ne peut que louer une telle initiative et puis s'y réjouir.
Pour Ange Dagaré, handicapé physique, directeur de cabinet à la mairie d'Abidjan-Cocody, la conjonction des efforts des ministères concernés peut permettre au centre de grandir.
Tous ceux qui ont une souffrance physique doivent être aidés. Et cela que le ministère de l'artisanat et le ministère de la santé s'accordent pour l'aider à faire de ce centre-là un grand centre, pourquoi pas ouest-africain, africain et mondial.
Ça sauve des vies, ça corrige des malformations, ça donne la beauté à tous ceux qui sollicitent ce centre. Donc pour moi, c'est d'une importance vitale.
Docteur Christophe Kofi plaide pour le coût des appareils.
Le matériel orthopédique importé revient excessivement cher. Ça fait que beaucoup de nos handicapés ne peuvent pas bénéficier de ces appareils qui peuvent quand même améliorer leur confort, permettre à un plus grand nombre d'handicapés de chez nous de pouvoir se procurer du matériel pour corriger leur handicap. Si cet appareil peut corriger le pied qui traîne, déjà, ça va améliorer son confort.
Avec l'ouverture de ce centre, on comprend la joie du député Agué Frédéric, à l'époque responsable du local qui abrite le COS.
En Côte d'Ivoire, c'est le seul centre qui existe. Au lieu d'aller au Maroc ou en Tunisie pour acquérir des chaussures orthopédiques, qu'on puisse avoir en Côte d'Ivoire. Donc, je suis très satisfait qu'aujourd'hui, ce centre ait vu le jour.
Les activités du centre orthopédique et services sont variées. Elles sont énumérées par son responsable, Stanis Conan.
Nos interventions sont du domaine de la chaussure et des petits appareillages orthopédiques. Ce qui veut dire que nous chaussons les personnes qui ont une malformation du pied. Donc nous chaussons le pied, quel que soit son état de positionnement. Nous corrigeons les pieds malformés des enfants. Nous corrigeons tout ce qui est douleur plantaire.
Jean Mendry, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Washington, Camille Gros-Didier qui vous présente cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme hebdomadaire de La Voix de l'Amérique. Et pour finir cette édition, eh bien, le chocolat noir a de nombreuses vertus, on le sait. Non, nous n'évoquons pas ici ses qualités gustatives, mais plutôt sa capacité à prévenir les maladies cardiaques, à tel point que les scientifiques recherchent les moyens d'isoler ces composants pour en faire des suppléments nutritifs, tout comme les vitamines. Je laisse Jacques Aristide expliquer.
Le cacao contient des substances chimiques appelées flavanols, réputées utiles contre de nombreux troubles cardiovasculaires ou métaboliques. Tout comme ceux contenus dans le vin rouge, ils peuvent aider à réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques en faisant baisser le taux de mauvais cholestérol et la pression artérielle, tout en améliorant l'absorption par le corps humain de l'insuline. Selon le chocolatier Steve Koumanelis, qui exerce son métier ici à Washington, c'est ce qui explique entre autres que le chocolat noir soit de plus en plus populaire.
Beaucoup de gens s'orientent vers le chocolat noir tout simplement parce qu'ils décident qu'ils aiment ça. Mais ils ont également lu tout ce qui est publié sur les bénéfices du chocolat noir sur la santé.
À noter néanmoins que ces avantages n'ont jamais été confirmés par des études cliniques impliquant un grand nombre de personnes. En outre, au cours de la fabrication du chocolat, de nombreux flavonoïdes sont détruits, alors même que du sucre et des graisses saturées sont ajoutés pour contribuer à la saveur de la gourmandise. C'est ce qui a décidé des responsables de la communauté médicale à procéder sur 4 ans à un vaste essai clinique mené auprès de 18 000 Américains pour vérifier une bonne fois pour toutes les éventuels bienfaits des flavanols. Les participants seront divisés en deux groupes chargés de prendre deux comprimés identiques, inodores et sans saveur par jour. Les pilules contiendront des flavanols pour un premier groupe, tandis que le second recevra un placebo.
Cette pilule de flavanol de cacao ne contiendra ni les calories, ni le sucre et la graisse saturée ajoutés au chocolat.
Les pilules flavonols contiendront plus de 10 fois le montant de ces substances que l'on consommerait dans du chocolat noir. Mais quelle que soit l'issue de l'étude, le chocolatier Steve Koumanelis ne se fait aucun souci.
Les gens aiment mordre dans un bout de chocolat et peu importe leur favori.
Yeah, yummy. Okay, you like it?
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Sciences et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier qui vous remercie de l'avoir suivi.